Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous, l'émission de ce soir va être consacrée à un diable de violoniste, Niccolo Paganini, né à Gênes en 1782 et mort à Nice en 1840. Et pour nous mettre dans l'ambiance, on écoute ceci.
Thank you.
C'était le 24e caprice de Paganini par le redoutable Nemanja Radulović. Alors plutôt que de vous assommer, de vous raconter platement la vie de Paganini, j'ai invité un habitué de RCN et plus spécialement de l'émission Les Plumes animée par Mona, c'est Jean-Jacques Boulet alias John Bullitt qui, avec Christine, va nous conter sa nouvelle La Légende de Niccolo Paganini. C'est à vous.
Dans la rue Mezzogiorno, Gênes, au numéro 54 bis, il flotte une bonne odeur de soupe à l'ail qui vous frise la moustache et vous donne envie de se faire inviter dans cette maison. De l'intérieur jaillissent aussi des sons de violon gambadant sur les prairies de la Vénétie. Et puis, moins agréables, des cris d'adultes maudissant le soliste manquant de constance dans la note et la justesse. Les remarques sont suivies de pleurs d'enfants et toujours, toujours la même phrase qui revient toute la journée. Pas de soupe tant que tu n'auras pas joué ta sonate sans aucune faute. Recommence. Mais père, ça fait 5 heures que je joue, je suis fatigué. Pas de soupe quand on rate un ré dièse, monsieur Niccolo Paganini. Recommencez. J'ai mal partout, père. C'est aujourd'hui l'anniversaire de mes 8 ans. Pas de soupe, pas d'anniversaire. Recommence. L'histoire du violoniste le plus talentueux du monde est en train de s'écrire dans la douleur et la privation. Depuis l'âge de 5 ans, 6 heures par jour, souvent sans manger, sans repos, tant que son père Antonio Paganini n'est pas satisfait de son travail, il enchaîne les gammes et les sonates. 17 heures, enfin. Le moment est venu pour l'enfant de pouvoir poser l'archet et de se réfugier dans les bras de Teresa, sa mère. Le seul endroit qui le sécurisera toute sa vie, excepté la scène, là où il était seul maître à bord dans une totale liberté. Maman, je n'en peux plus. Ma main enfle, gonfle. Elle devient rouge à force de jouer. J'ai mal, j'ai mal.
Oh, mon Niccolo chéri.
Viens, viens par ici. Je vais te mettre de cet onguent que m'a laissé ma mère, la guérisseuse des Cinque Terre. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Ça va aller mieux. Ton père te pousse sans arrêt, mais c'est pour ton bien, mon tout petit. Tu sais, je t'ai vu en songe, dirigeant tout un orchestre, toi, devant eux, avec ton violon magique et tout un parterre de gens de la haute. Tu vas faire de grandes choses, mon petit amour chéri. Tu vas...
Mais maman, pourquoi Carlo, mon grand frère, ne joue-t-il pas autant que moi avec mon père pour progresser? Moi, j'ai déjà appris la mandoline quand j'avais 5 ans et lui joue du violon comme un âne. Il fait des fausses notes tout le temps. Et père ne lui dit rien. C'est pas juste.
Oh, accroche-toi, mon poussin. Carlo n'a pas tes dons, donnés par le ciel et par tes parents qui adorent la musique. Même s'il n'est pas très doué, c'est lui qui nous décroche souvent des contrats pour jouer dans les tavernes dans lesquelles il est toujours fourré. Ça ne me plaît pas beaucoup, d'ailleurs, à 15 ans seulement. Mais que faire? Il a la tête aussi dure que celle de ton père et n'en fait qu'à son idée. Nous avons besoin d'argent. Et rien que ta présence dans l'orchestre ravit tout le public. Tu as des mains d'or, Niccolo.
Je suis fatiguée.
Je sais, je sais. Tiens, Niccolo, pour ton anniversaire, voici un petit biscuit à la crème que j'ai récupéré chez ma patronne qui recevait des convives hier soir. Demain après-midi sera un grand jour pour toi. Nous allons chez maître Giacomo Costa, le premier violon de l'orchestre du théâtre et maître de chapelle à San Lorenzo.
Ah oui.
Avec ce que nous avons économisé, tu pourras avoir 30 leçons chez le maître.
Oh, 30 leçons? Ouais. Et j'espère qu'il est bon, ce professeur Costa, et surtout qu'il crie moins fort que père quand je me trompe. Je vais lui montrer de quoi je suis capable à ce Costa.
Oh, Niccolo, ne te montre pas insultant et prétentieux. Ton simple talent parlera pour toi. Maintenant, monte te coucher, tu dois être fatigué. Je te montrerai ta soupe d'ici quelques instants, dans ta chambre.
Oui, maman chérie, tu as raison, comme toujours. Mais bientôt, j'éclabousserai le monde de mes notes enchantées. Ils seront tous à mes pieds.
Oui, c'est ça. C'est ça. Allez, va éclabousser le monde, mon chéri. Mais oui. Va déjà l'éclabousser dans ta chambre.
Un an plus tard seulement, Niccolò Paganini compose déjà sa propre sonate, à l'âge de 8 ans. Encore quelques années, et à 13 ans à peine, ses talents exceptionnels sont remarqués par le marquis Giancarlo di Negro, un riche amoureux des arts et de la musique qui le prend sous sa cape. Oh, Niccolò, tu ne peux rester dans cette ville de pêcheurs incultes et frustes à jouer des tarentelles idiotes dans les bouges de Gênes. Non, je te vois travailler avec les plus grands, à Palme, avec le virtuose Alessandro Rolla, ou à la rigueur avec Rodolphe Claude, qui vient parfois donner des leçons à Gênes. Tu dois voir, oh Niccolò, tu dois voir grand Niccolò, maintenant que tu as 13 ans. Le marquis avait effectivement raison. Et si la plupart des professeurs rencontrés jusque-là n'avaient pas vraiment été à la hauteur de cet élève trop doué, Alessandro Rolla allait se révéler fort utile dans la progression et l'épanouissement du jeune violoniste. Ébahi après que Niccolò eut déchiffré immédiatement, à première vue, une œuvre inconnue de lui, impressionné par sa technique exceptionnelle, celui-ci, pourtant virtuose, estime tout d'abord n'avoir rien à lui apprendre. Tes staccato, glissando, pizzicato de la main gauche sont déjà parfaits, mais la bouche de tes tris, double corde, démanchés sont tout simplement extraordinaires, cher Niccolò. Ah, que pourrais-je t'apprendre de plus, si ce n'est de les perfectionner? Oh, maître, c'est trop d'honneur que vous faites à mon protégé, lui glissa le marquis. Je suis sûr que j'aurais pu encore jouer mieux si j'avais été moins fatigué du voyage en carriole, maître Rolla. Ah, ton audace me plaît, jeune Paganini. À la réflexion, je m'engage à te former encore un peu plus. T'entendre jouer auprès de moi nous fera le plus grand bien à tous les deux. Il nous portera vers le sublime. En quelques années, effectivement, il le formera, le poussera vers ce sublime dont il lui parlait. À 15 ans, à peine, Niccolò était déjà devenu un compositeur averti, maîtrisant l'harmonie, le contrepoint, l'orchestration. Il enchaînait les concerts, sous la coupe de son père, impitoyable impresario, mais heureusement aussi sous l'œil attentif de son mentor musical et du petit marquis. Oh, les cours d'harmonie que vous m'avez fait donner chez le violoncelliste Gasparo Ghiretti m'ont été d'un grand secours, cher maître Rolla, lui glissa-t-il en sortant d'un concert donné dans sa bonne ville de Gênes. Je sens que j'ai encore progressé dans l'harmonie. Par contre, je sens une forte animosité auprès de Rodolphe Kreutzer, qui m'a donné aussi quelques cours de contrepoint. À vrai dire, j'ai même un peu l'impression qu'il serait jaloux de moi. Niccolò ne se trompait pas, et une haine tenace se créa peu à peu entre les deux artistes rivaux. Nourrie par la jalousie maladive que Kreutzer développait au regard du génie de Paganini. Le summum de sa méchanceté eut lieu le jour de ses 18 ans et de son grand concert à Milan. Se glissant dans la loge, profitant de l'absence momentanée de Niccolò, Kreutzer sabota le violon de son rival, sciant en partie les quatre cordes de celui-ci, juste avant le concert.
« Ah, vous êtes là! Je vous cherchais. Bonne chance et bon concert, cher Niccolò !»
déclara ce dernier en le croisant à la sortie de sa loge. Ah, de la chance! Il allait lui en falloir, mais c'est du talent et de la virtuosité surtout dont il allait faire preuve à cette occasion. Son œuvre débutait par un solo sur les cordes du haut, et la plus grande partie du morceau était déjà bien engagée, avec beaucoup de brio comme à l'habitude, lorsque la première corde céda sous son archet. Sans se départir de son calme habituel, Niccolo transposa l'œuvre sur les trois autres cordes et compensa le manque de la quatrième corde. Il avait compris, bien sûr, les cordes, c'est Kreutzer, Kreutzer. Le sabotage était évident pour lui, mais il ne voulut pas le montrer. Le public avait pourtant vu la corde qui pendait lamentablement le long de son instrument. Tout violoniste ordinaire se serait arrêté immédiatement, aurait changé de violon ou de corde, c'est certain. Et pas Niccolò Paganini. Celui-ci voulait finir cette sonate, coûte que coûte, ne serait-ce que pour vaincre Kreutzer. Et il avait déjà réussi à faire plus de la moitié de la sonate dans cet état, quand la seconde corde se rompit également. Des exclamations fusèrent de partout, le public retint son souffle devant le miracle de virtuosité, le calme du maestro. Car ce dernier poursuivait, imperturbable, sa sonate. Ceux-ci ouvrirent encore plus de grands yeux quand Paganini, sur un dernier accord virevoltant, réussit la prouesse de terminer son œuvre sur deux cordes seulement. Alors, les spectateurs se levèrent, tous comme un seul homme, applaudirent à tout rompre la performance du maître incontestable du violon. Ce soir-là, Niccolò Paganini était entré dans la légende, comme le violoniste le plus doué au monde, le sorcier du violon, que l'État italien songea même à un moment à interdire de scène sous prétexte qu'il ne pouvait être qu'un suppôt du diable ou de Satan pour pouvoir jouer ainsi sur deux cordes. Oui, la légende de Niccolò Paganini était né pour toujours.
Thank you.
Après la nouvelle de la légende de Niccolo Paganini racontée par John Bullitt et Christine, c'était le premier mouvement du concerto pour violon numéro 2 de Paganini toujours, la Campanella, par Ilia Kaler au violon, l'orchestre symphonique de la radio polonaise sous la direction de Stefan Gutzenhauser.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Sorcier du violon, suppôt du diable, on est bien au-delà du virtuose, même du génie. Paganini écrivit beaucoup pour le violon, mais eut également son petit succès avec ses œuvres pour guitare. Il paraît même que lors de certains de ses concerts, il n'hésitait pas à jouer alternativement ses deux instruments de prédilection. Voici l'une de ses pièces pour guitare, la Romanza, extraite de sa grande sonate en La majeur. C'était la Romanza, extraite de la grande sonate en La majeur pour guitare de Niccolo Paganini, jouée par Gérard Garcia. Alors on ne peut pas évoquer Paganini sans parler des instruments qu'il jouait. Son violon préféré, surnommé Il Canone, était un instrument fabriqué à Crémone en 1743 par le luthier Guarneri del Gesù. Autre violon fort apprécié par Paganini, le Vuillaume, du nom du luthier français qui lui a donné vie, Jean-Baptiste Vuillaume, originaire de Mirecourt dans les Vosges. Ce violon de Vuillaume est une copie conforme du Guarneri del Gesù dont on vient de parler. Il fut offert à Paganini par Vuillaume alors que ce dernier réparait l'original. Pour l'anecdote, sachez que Paganini revendit ce violon à un de ses élèves pour la somme de 500 francs et ce même Paganini fit porter la somme à Jean-Baptiste Vuillaume en signe de reconnaissance et d'amitié. On peut dire qu'on savait vivre en ce temps-là. Bref, tout ça pour vous dire que Paganini possédait moult violons, violons alto, violoncelles, dont un certain nombre signés des plus grands luthiers. Quatre d'entre eux furent signés Stradivarius, deux violons, un alto et un violoncelle, qui furent réunis sous le vocable de quatuor Paganini et furent joués pendant plusieurs années par des quatuors à cordes de réputation mondiale, comme le quatuor de Cleveland, le quatuor de Tokyo ou plus récemment le quatuor Hagen.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Les caprices de Paganini, dont on a entendu le numéro 24 en début d'émission, datent du tout début du 19e siècle et certains d'entre eux ne laissèrent pas insensibles d'autres compositeurs. Entre virtuoses, on se reconnaît et on s'apprécie. C'est pourquoi Franz Liszt écrira pour le piano les grandes études de Paganini. Écoutons le thème et les variations de l'étude numéro 6 sous les doigts d'un autre virtuose, Lang Lang. Thank you. Paganini toujours sous les doigts de Lang Lang dans cette étude numéro 6, grande étude de Paganini, écrite par Franz Liszt. Alors Liszt ne fut pas le seul à être inspiré par les thèmes des caprices de Paganini. Écoutons Nikita Magaloff dans cette étude de Schumann d'après le caprice numéro 5 en mi majeur. C'était l'étude de Schumann d'après le cinquième caprice de Paganini en mi majeur. Alors plus près de nous, Alfredo Casella, chef d'orchestre et pianiste italien de la première moitié du XXe siècle, s'est également emparé du thème du 24e caprice de Paganini pour en faire ceci. Thank you. Voilà, c'était le premier mouvement de Paganiniana d'Alfredo Casella par l'orchestre de la Suisse italienne dirigé par Christian Benda. Autre Paganiniana, mais au violon cette fois-ci, avec les variations écrites et jouées par le violoniste Nathan Milstein. C'était le violoniste Nathan Milstein dans une de ses propres œuvres, les variations paganiniennes. Et nous allons terminer cette émission avec la fin de la rhapsodie pour piano et orchestre sur un thème de Paganini, écrite par Serge Rachmaninoff. C'était un extrait de la rhapsodie pour piano et orchestre sur un thème de Paganini de Serge Rachmaninoff. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une petite annonce, ce dimanche 24 à l'Opéra National de Lorraine à 15h, la petite messe solennelle de Giacomo Rossini. Les solistes et les chœurs de l'opéra sont sous la direction de l'actuel chef des chœurs de l'opéra, notre ami Guillaume Fauchère. Merci à Jean-Jacques Boulet, alias John Bulit, et à Christine pour la lecture de la nouvelle La Légende de Paganini. Merci à Pierre pour la technique, merci à Lou pour son silence. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCN et à mardi prochain.